Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est les oreilles loin du front, on part tout de suite au Venezuela.
Trae tus 500 años de culebra, antes calavera en carabelas, ahora la muerte vuela. Sigue la lucha contra el diablo, Bush y Colón son lo mismo, viejo y nuevo imperialismo.
Aquí hubo civilizaciones antes de que el almirante Colón se aventurara e iniciara la globalización, que no es nada nuevo, solo que ahora tiene computadoras.
Abajo cadenas, abajo el Colón, Pachamama libre, cuero, baile y pregón. Revolución en la revolución, rebelión pachamericana.
Et voilà, c'était un petit peu de musique que nous ont ramené Renaud Lambert et Antoine Chao qui sont avec nous dans le studio, qui étaient au Venezuela fin janvier dernier, qui sont revenus avec une certaine énergie. Parce que là-bas, je crois qu'en tout cas, on va un petit peu en parler, mais il y a un vrai engouement, une vraie énergie, des choses, beaucoup de choses qui se mettent en place. Vous pouvez nous en parler rapidement de ce que vous avez ressenti?
Je crois que ce qui est intéressant, c'est que la 4e guerre mondiale a commencé quoi, là-bas, mais il y a déjà longtemps, c'était en 92. D'ailleurs, on a un petit son à vous faire écouter tout à l'heure, c'est l'élément un peu déclencheur de cette 4e guerre mondiale. Mais Renaud aussi peut-être faire un petit point là, sur comment il voit la situation en ce moment.
Ouais, c'est galvanisant de revenir d'un pays où on est en rupture totale avec la litanie qu'on entend beaucoup et particulièrement aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative. Il y en a. Et au Venezuela, on se charge d'aller fouiller un petit peu du côté de ces autres voies possibles.
Alors, la 4e guerre mondiale, c'est la guerre mondiale contre le néolibéralisme. Donc, la 3e, c'est la guerre froide, et la 4e, c'est contre le néolibéralisme, qui a commencé en 89 à Caracas avec un grand soulèvement populaire qui s'appelait le Caracas. Et donc, suite à ça, en 92, Chavez a fait une tentative de coup d'État. Donc on n'est pas venu non plus pour réhabiliter le treillis, hein, mais on voulait justement vous faire écouter cette prise de parole qui est un petit peu le début de la révolution bolivarienne qu'on a pu voir en marche aujourd'hui encore. Camarades, malheureusement pour l'instant, les objectifs que nous étions fixés n'ont pas pu être atteints dans la capitale. Il est temps maintenant de réfléchir. D'autres situations se présenteront et le pays doit aller définitivement vers un meilleur destin. Alors écoutez mes paroles, écoutez le commandant Chavez qui vous parle pour, s'il vous plaît, réfléchir et déposer les armes. Parce qu'il est vraiment impossible d'atteindre nos objectifs dans le pays. Je vous remercie pour votre loyauté, votre courage et votre générosité. Et moi, devant le pays et devant vous, j'assume la responsabilité de ce mouvement militaire bolivarien.
Donc là, on est 92. C'est peut-être la première fois qu'on entend parler de Chavez, en tout cas au niveau international. Qu'est-ce qu'il représente déjà à cette époque-là, Chavez, et par rapport au peuple vénézuélien?
Mais comme l'a dit Antoine, le mouvement, la 4e guerre mondiale commence en 89. Ce qui s'est passé en 89, en fait, c'est important de rappeler, c'est que le pays, qui est un des pays les plus riches d'Amérique latine, le plus riche d'Amérique latine, grâce à ses réserves pétrolières, avait quand même réussi, grâce à ses élites qui détournaient une grande partie de l'argent de la rente pétrolière, avait réussi à être extrêmement endetté et s'était vu imposer un paquet de mesures d'ajustement structurel directement répercuté sur le prix du pétrole et sur le prix du transport. Les gens sont descendus dans la rue et les émeutes ont duré plus d'une semaine avec des milliers de morts. Donc un mouvement de remise en cause de ce processus beaucoup plus avancé en Amérique latine qu'en France, le néolibéralisme, avait commencé et Chavez apparaît comme l'un de ces nombreux militaires qui, dans l'histoire latino-américaine, ont voulu se faire les porte-drapeaux d'une possible transformation sociale. Il abandonne le projet de la révolte armée assez rapidement, sort de prison en 94, c'est une promesse du président de l'époque, et commence à ce moment-là une campagne où il va retisser des réseaux au sein d'une gauche totalement laminée par le dépôt des armes, le fait que les animateurs des mouvements guérilleros avaient commencé à se trouver assez à leur aise dans la société capitaliste qu'ils avaient auparavant combattu, Chavez arrive et catalyse une révolte et puis un grand vide dans l'espace de gauche. Et c'est l'élection en 98 avec des alliés plus ou moins convaincu par l'idée d'une révolution. D'ailleurs, à l'époque, le processus bolivarien se propose de remettre en cause le capitalisme sauvage. Donc, on imagine qu'il proposait un capitalisme à visage humain, quoi. Ça a bien changé.
Mais alors, sur quelle force politique ça repose, Chavez? Est-ce qu'on voit émerger une classe politique nouvelle, ou est-ce qu'il y a une gauche radicalisée qui va se recycler là-dedans, ou qui va continuer à exister à côté? C'est quoi l'espace politique dont dispose Chavez?
Je crois que c'est une volonté populaire avant tout, hein. Il se repose vraiment sur le peuple. Il n'y a pas vraiment de force politique autour de Chavez, donc c'est aussi pour ça que la situation est délicate, parce qu'il est assez isolé. Mais c'est vraiment une volonté populaire de faire vivre une démocratie participative et de voir émerger un socialisme du XXIe siècle que beaucoup de peuples d'Amérique latine attendent depuis 500 ans, quoi. Donc vraiment, là je crois qu'il y a cette base populaire qui est là, et tout un appareil d'État et toute une force politique à construire autour de ce personnage un petit peu providentiel qui est arrivé à un moment, qui a réussi à catalyser tout ce besoin populaire, quoi.
Oui, avec ça, cette question, on est dans le vif du sujet, mais de tout projet révolutionnaire, c'est comment construire un projet qui remet en cause un État qui lui-même avait été construit pour assurer la pérennité d'un système de domination d'une classe sur une autre. Alors évidemment, c'est difficile, c'est une lutte, et le processus bolivarien est avant tout une lutte. Donc le paysage politique, brièvement, c'était un paysage de démobilisation à gauche, un parti communiste très faible, d'anciens guérilleros qui avaient viré leur cutie, en gros, je vais très vite, hein, mais aussi de cadres politiques formés par les deux partis hégémoniques de 40 ans de bipartisme depuis la fin de la dictature, AD et COPEI, qui avaient du mal à accéder au pouvoir parce que, en plus de toutes ces difficultés, le Venezuela était gérontocrate, c'est-à-dire que c'était des grabataires qui gardaient le pouvoir. Donc tous ces gens se sont engouffrés, mais sans réelle volonté de transformation sociale. Alors à partir de là, pour tout transformer, Chavez a créé une espèce d'énorme coalition, mais qui, comme l'a dit Antoine, s'appuie surtout sur une extrême mobilisation populaire constamment alimentée par une conscientisation, une éducation.
Alors, on va parler quand même de ce que vous avez vu là-bas avec des sons que vous avez ramenés. Il y a un exemple de cette assise populaire qui a été le coup d'État qui a eu en 2002, qui a été un moment incroyable où l'opposition donc de droite met tout en place avec une artillerie médiatique, etc., tout pour destituer Chavez. Et c'est le peuple qui remet Chavez au pouvoir. Vous pouvez rappeler ce moment-là, qui est un moment charnière dans l'histoire récente du Venezuela?
Oui, je pense que c'est effectivement un moment charnière, et je crois que même pour l'équipe gouvernementale en place, ça a été une prise de conscience de l'importance du peuple. En deux mots, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, grâce aux médias, c'est quand même un coup d'État qu'on a appelé le premier coup d'État médiatique. Pendant plusieurs mois, les médias dominants ont martelé le message.
Alors, faut rappeler, faut peut-être expliquer ce qu'est la situation des médias, qui est tout à fait inédite au Venezuela.
Inédite?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, vous le savez mieux.
Elle appartient à des grands groupes, oui, toute la
90%, presse. Une presse concentrée à 90%, des patrons de presse en lien direct avec l'oligarchie, avec les forces politiques, une espèce de promiscuité incroyable, et en effet, un rapport. Vraiment, les médias ne sont pas un contre-pouvoir. Alors, je pense qu'Antoine sourit parce qu'on avance à grands pas en France, où la commission Lancelot récemment nous a annoncé qu'il n'y avait aucun problème de concentration en France, où, entre parenthèses, plus de 2/3 de la presse est contrôlée par Lagardère et Dassault, qu'on n'a rien à leur envier, mais eux commencent à changer les choses. On pourra peut-être en parler plus tard. Mais effectivement, donc cette presse servit de levier pour donner l'impression, l'illusion d'une mobilisation. Je dis illusion parce que les mobilisations étaient réelles, mais uniquement une mobilisation des classes moyennes qui n'ont pas l'habitude d'aller regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe, d'autant qu'elles avaient l'habitude de se regarder à la télévision et de ne voir personne d'autre. Or, la majorité des gens continuent à soutenir Chavez. Ça ne les a pas empêchés de mettre en place un stratagème de coup d'État qui reposait sur l'organisation d'une tuerie. Qui avait été dénoncé dans un spot enregistré dans une télévision qui s'appelle Globovision, avant même d'avoir eu lieu, ce qui donne une idée de la responsabilité des médias. Et effectivement, les gens sont descendus sans aucun appel d'un parti politique, d'une force politique, de Chavez qui n'était pas là, qui était séquestré. Les gens sont descendus de façon autonome. C'est la démocratie directe et ont demandé que Chavez revienne au pouvoir.
Voilà, c'est à ce moment-là, à partir de là, qu'on se dit que la population, le peuple cubain, a goûté aux fruits défendus, donc à la souveraineté, à la dignité aussi.
Tu as dit, Antoine, ta langue approchée, tu as dit cubain.
Ah, alors cubain, c'est vrai,
je vais en reparler d'ailleurs tout à l'heure.
Cubains, ils ont un peu de travail encore, mais ils y arrivent aussi. Et donc, c'est là que reprend justement Fidel à souffler à Chavez un slogan qui dit « Le génie est sorti de la bouteille ». Et le génie, c'est vraiment cette volonté du peuple d'être souverain et de récupérer sa dignité perdue il y a déjà si longtemps. Et donc le génie est sorti de la bouteille et il n'y a plus personne pour le renfermer dans la bouteille.
On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Alors on est parti ce soir du côté du Venezuela. On est avec Antoine et Renaud qui en reviennent, qui ont été faire leur pèlerinage au Venezuela. On va revenir un petit peu sur ce que vous avez vu concrètement, mais pour finir de dresser le tableau de la situation politique et sociale au Venezuela, je voulais revenir sur la question des élections. C'est-à-dire que Chavez, à plusieurs reprises, a joué le jeu d'un retour face aux électeurs, précédant plusieurs fois d'ailleurs les échéances électorales. Est-ce qu'on peut dire un petit peu ce que c'est ce jeu et puis évidemment l'articuler avec cette constitution qui a l'air d'être un élément déterminant de la vie politique au Venezuela?
Oui, en 2004, Alexandre Adler parlait de Chavez en disant ce dictateur rouge-brun, il parlait d'un populiste messianique et d'un autocrate militaire. Or, depuis son arrivée au pouvoir, Chavez et les représentants du mouvement qui le porte, le MVR, Mouvement pour la Ve République, ont été plébiscités au cours de 11 scrutins. 11 scrutins, ce qui est quand même un gage de démocratie dans ce pays.
Alors, le dernier en date, celui de décembre 2005, c'était un scrutin législatif, a été marqué, il faut le dire, par une forte abstention, environ 75%. C'était une claque pour Chavez, qui l'a vécu comme tel, et qui a marqué aussi les débuts d'un désamour probable entre une partie de la population qui soutient toujours autant Chavez et ses députés, qui reproduisent finalement les habitus des gens qu'ils étaient appelés à remplacer, qui commencent à préférer les salons à l'air conditionné, leurs secrétaires et un certain confort, et se détachent d'une population qui a probablement sonné la sonnette d'alarme, quoi.
Bon, une forte abstention aussi parce que l'opposition s'est retirée des élections, donc a boycotté, et c'est une technique bien connue qui a été aussi pratiquée au Guatemala,
au Nicaragua.
Donc on connaît. Après, effectivement, on décrédibilise un gouvernement en disant effectivement il n'y a pas de représentativité parce que il n'y a pas d'opposition. Donc bon, c'est une technique bien connue qui est en général instillé par Washington dans ces genres de cas, quoi.
Ah, tout à fait. Et l'autre événement électoral au Venezuela, c'est le référendum révocatoire qui a lieu en 2004. Donc la possibilité d'un référendum révocatoire est inscrite dans la Constitution qui a été votée depuis l'arrivée de Chavez en 1999 et qui permet, à partir de la signature, de l'obtention d'un nombre de signatures que j'ai oublié, de proposer la révocation du chef de l'État. Et là encore, c'était une victoire très importante de Chavez. Les gens ont fait la queue pendant des heures et des heures pour aller voter, pour soutenir le processus. Et ça a été l'occasion d'une radicalisation du processus. Ça s'est appelé el salto adelante, le saut en avant. Et c'est avec tous ces jalons de succès en succès que la révolution passe de cette critique du capitalisme que j'évoquais tout à l'heure au projet d'un socialisme du 21e siècle, un projet plus radical et aussi internationaliste qui se propose d'exporter la révolution dans d'autres pays.
Alors justement, on va rentrer dans le cœur du sujet et ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, ce qui est intéressant parce que au-delà de la figure de Chavez dont on parle beaucoup par intermittence, mais enfin quand même beaucoup dans la presse ici, il se passe quand même donc un certain nombre de choses que vous avez vu donc il y a quelques mois en partant là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas des gens que vous avez rencontrés, dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui?
Bon, ça fait 7 ans hein, que Chavez est au pouvoir, donc il y a déjà eu un moment qui était inévitable de remettre le pays à flot, quoi. Donc lutter contre l'analphabétisme, remettre un peu la médecine en état, etc. Donc ça a pris quelques années, hein, et ça s'est fait doucement parce que justement l'appareil étatique était quand même corrompu et appartenait encore au système précédent. Donc ça met aussi un certain temps à remettre en marche un système qui était complètement sclérosé. Et donc maintenant, on arrive là après ces 6 ans, donc d'un travail acharné hein, des ministres de Chavez, de ses ministres et des révolutionnaires convaincus, parce qu'il y a beaucoup de révolutionnaires qui ne sont pas dans le gouvernement, mais qui surveillent, qui sont qui là en ce moment en plus c'est assez intéressant. Il y a toute une série de comités de veille citoyenne qui se mettent en place justement pour faire en sorte de sauver ce processus qui est tous les jours en danger, quoi, parce que justement cette corruption, le bureaucratisme qui est inhérent à tous les systèmes, mais bon, qui est quand même assez répandu en Amérique latine. Donc il y a tous ces écueils qui font que le processus, comme il l'appelle, est long à mettre en marche, quoi. Mais bon, nous, on a vécu là-bas quelques expériences avec des coopératives, dans des usines, en campagne aussi, avec des paysans qui récupéraient des terres, etc. Et bon, il se passe quelque chose, on peut pas, bon, ça saute aux yeux, quoi.
Oui, c'est sûr. Ouais. Depuis 2004, le processus de radicalisation implique une mise en place de systèmes parallèles à cet État qui représentait une inertie trop importante pour que le processus avance. Et donc ont été lancées des missions telles que des missions de santé, d'alphabétisation, et elles commencent à porter leurs fruits. C'est-à-dire que des gens qui ne savaient pas lire, qui n'avaient pas accès à un savoir politique, au moyen de d'acquérir les bases d'une compréhension, d'une participation au processus, sont en train de le faire. D'ailleurs, un phénomène qui est absolument impressionnant, c'est la quantité de vendeurs ambulants spécialisés, d'ailleurs non pas spécialisés, mais qui ne vendent que des textes de loi, de la Constitution, et ça marche bien. Les gens les lisent. On voit des gens dans le métro qui lisent ces textes pour s'emparer de leurs droits et les revendiquer. Donc ça, c'est visible à tous les niveaux. Je parlais donc des missions pour la santé. Depuis 2004, où la mission Barrio Adentro a été lancée, trois échelons ont été montés depuis l'instauration de petits centres de soins d'urgence, je dirais, dans les coins les plus reculés du pays ont été installés. On est passé à mission Barrio Adentro 2, deuxième niveau, avec l'installation de cliniques pour des soins de type kinésie, peut-être dentaire. Et puis maintenant, on lance le processus de Barrio Adentro 3, qui est la récupération, la restauration des hôpitaux. Et ce phénomène de construction à partir de la base, en parallèle à un état sclérosé, bien, on le remarque dans tous les niveaux, notamment dans celui de la récupération des terres à partir de la réforme agraire lancée en 2001. Et c'est l'une des choses que l'on a pu réellement rencontrer dans un voyage dans une coopérative, dans une région qui s'appelle Bella Vista.
Ah bah racontez-nous.
Donc Bella Vista. C'est dans la région de Yaracuy, donc à peu près à 5 heures de route de Caracas. On va aller visiter ce groupement de coopératives.
COP Bella Vista 2005, Núcleo de Desarrollo Endógeno, Centre de Développement Endogène Bella Vista. Hola, ¿cómo se encuentra? Ahí cebollita. C'est des petites, c'est des petits oignons frais.
Qu'ils ont.
Para comer, claro, claro, claro. Tiene una gorra misión vuelvan caras. Alors, vous avez une casquette rouge avec Mission Vuelvan Caras. Vuelvan Caras, c'est comme le travail de réinsertion, d'apprentissage professionnel. Qu'est-ce que c'est Vuelvan Caras?
Bueno, eso son gorras que nos da Chávez.
Alors ça, c'est Chávez, le président, qui nous les a données. Sí.
Ajá. Entonces, para representar pues que uno es chavista y
donc voilà, c'est pour sí. Montrer qu'on est chaviste quoi. Uh-huh. Pero qué es Vuelvan Caras? C'est quoi Vuelvan Caras?
Bueno, Vuelvan Caras es lo que uno está haciendo aquí de agricultura.
Alors Vuelvan Caras, c'est ce qu'on est nous en train de faire ici, c'est l'agriculture.
Ahorita están haciendo uno.
Ah, ils sont tous là-bas en ce moment-là.
Ah, es bueno que ustedes se acerquen ahí también para que, vale. ¿Me entiendes?
Donc voilà, et c'est bien que vous alliez voir là-bas ce qui se passe, uh-huh. Vous compreniez. Alors après, il y a une série de tentes, deux tracteurs, une série de tentes rouges alignées. Buenas, señora. ¿Cómo se encuentra?
Bien.
Bien. Buenas. ¿Usted lleva tiempo aquí en la cooperativa?
Sí, tengo 7 meses.
7 meses es poco, se hace 7 meses, sí. Pas beaucoup.
7 meses tenemos aquí cooperativa, trabajando. Ah.
7 mois que je suis dans la coopérative et que je travaille.
Ajá, haciendo muchos trabajos, pimentones, lechuga.
Là, on fait des poivrons, des laitues.
Están llamando. Ahí, va donde están.
Vale. Ahí.
Ahí, donde están. Ajá.
Vaya ya. Voilà la réunion des différentes coopératives du secteur. Il y a une cinquantaine de personnes assises et qui suivent la conférence. Donc chacune des coopératives qui se réunissent aujourd'hui partagent leurs différentes expériences et ont chacune élaboré un tableau qui hiérarchise la priorité des problèmes. Voilà, donc avec le problème de l'éducation, de la santé,
tenencia de la tierra, le travail de la terre, le goudronnage des voies de communication, le transport, les crédits, etc., etc. Donc à chaque fois, tout le monde a voté, donc c'est vraiment un exemple de démocratie participative avec un vote sur chaque thème, sur chaque problème, avec des solutions proposées à chaque fois de façon collective. Donc chaque communauté a préparé aussi un croquis de l'exploitation. Donc là il s'agit du croquis de la coopérative de Chirimake qui fait 550 hectares avec 39 maisons. Donc ils sont alignés le long d'une route principale et les terrains sont des deux côtés de cette route qui traverse Chirimake. Et en ce qui concerne donc la coopérative de Bella Vista, il s'agit de 1080 hectares qui ont été récupérés à des grands propriétaires terriens qui les laissaient en jachère ou qui cultivaient de la canne à sucre de façon intensive. Donc là, il s'agit d'élire trois représentants des coopératives qui font le lien avec le MINEP, le ministère de l'économie populaire, qui est représenté ici par l'animateur du débat, une jeune femme habillée de la traditionnelle casquette rouge estampillée MINEP avec le drapeau bolivarien. Et ils ont un rutilant véhicule 4 roues motrices là, qui leur permet de circuler de coopérative en coopérative.
Luego, una de las preguntitas es, después de esto, ¿qué? Por supuesto, nosotros tomamos las tierras acá, recargamos estas tierras para el pueblo.
La conférence continue, on est sous la tente là avec les camarades des coopératives de Bella Vista. Donc, Bella Vista, c'est le nom de l'endroit dans lequel on est. Et qui regroupe donc 13 coopératives qui sont en train de suivre là cette formation organisée par le MINEP. Donc à Caen, ici en France, on aura les écoles de commerce qui feront des formations aux coopératives plutôt qu'à la formation de sociétés anonymes. Quoi.
C'est intéressant parce que le MINEP est sur les lieux ce jour-là pour aider les coopératives qui veulent se doter d'infrastructures. On pourrait s'attendre à ce que des ingénieurs soient parachutés, examinent un petit peu les lieux, fassent des calculs et puis annoncent les mesures qui vont être prises. Et là, pas du tout. Les gens qui sont dépêchés sont des formateurs qui aident les gens à s'organiser. Comment tenir une assemblée, comment créer des ateliers, comment se mettre d'accord pour mettre en place un certain nombre de priorités que les gens pourront ensuite exiger, puisque c'est leur droit, exiger de leurs administrations. C'est comme ça que ça marche. Donc on est très loin des logiques d'assistanat. Le parcours des gens qu'on a rencontrés là-bas est intéressant parce que c'est des gens qui vivaient auparavant dans les quartiers les plus pauvres de Bacchesimento, à quelques kilomètres de là, et qui vivaient dans des maisons faites de bouts de bois et de bâches en plastique, quoi. Et grâce au programme Buen Balcaraz, dont on va parler un petit peu après, ils ont été dotés d'une formation qui leur a permis de s'organiser en coopérative et donc de créer un nouveau rapport au travail et surtout de trouver un travail en parallèle à la récupération de terres grâce à la réforme agraire qu'a lancée le Venezuela. Donc des réformes agraires, il y en a eu dans tous les pays d'Amérique latine, plus ou moins avec plus ou moins de succès. Et celle de 2001 a permis la récupération de terres pour tout propriétaire qui possédait plus de 5000 hectares. Elle n'est pas encore totalement aboutie. Il y a eu beaucoup de ralentissements, notamment parce que certains gouverneurs de l'opposition ou chavistes, finalement moins révolutionnaires qu'on le pensait, ont mis un terme à ce processus, mais c'est quand même une avancée énorme. Et donc ces gens se retrouvent sur des terres qu'ils peuvent commencer à cultiver, et là donc ils se rassemblent pour obtenir pour mettre en place des infrastructures.
Germán Oviedo. El señor Jesús María Cortés fue el coordinador general de la misión Buen Balcaraz acá en el municipio de Achiche.
Et voilà, juste à côté de moi, le père de la créature, puisque c'est lui qui était directeur de la mission Buen Balcaraz et qui est donc à l'origine de tout ce processus. Et il va nous parler un petit peu là.
La misión Buen Balcaraz es un programa del gobierno nacional que consiste en organizar a toda la población excluida en el sector educativo, en el sector de capacitación laboral en el sector productivo, y esos seres se organizan en talleres.
Alors la mission Bolmakara, c'est une mission du gouvernement et qui a pour but donc de la capacitation, donc la formation dans les secteurs éducatifs, dans le secteur du travail, et qui a pour objectif la création de coopératives.
Y luego de pasan a esa etapa de soportar pues la resistencia de los embates que les trae el rescate de la tierra, y paralelamente a esto se va estructurando el proyecto productivo con que ellos van a trabajar en el área.
Donc ce processus s'est adapté au cas concret que l'on rencontrait et qui n'était pas forcément prévu dans les missions de capacitation au départ, comme la récupération de la terre. Donc petit à petit, on s'est adapté à ça pour accompagner le processus.
Que l'objectif de fondo de la mission est cambiar el modelo económico capitalista por un modelo económico cooperativista horizontal, donde todos ellos tienen igualdad de derechos, iguales deberes y hay equidad en todos los aspectos.
Qui ont pour objectif de changer le modèle capitaliste, transformer en un modèle horizontal où tous sont égaux, où tous ont les mêmes droits, les mêmes devoirs dans la construction des coopératives.
Y esto le va a permitir a estos seres, paralelamente a ir avanzando en la parte productiva, también van a ir estudiando, avanzando en los niveles de educación. Con esto se cumple el objeto de incluirlos en el sistema educativo y en el sistema productivo, que es lo que quiere la misión.
Et donc le but de la mission, c'est de permettre de lancer le processus de production et aussi en même temps le processus de formation, parce que les gens continuent à recevoir des cours. Les deux fonctionnent de manière conjointe.
Sí, parece muy interesante. Y Bellavista como experiencia ya, como este núcleo, bueno, igual a la experiencia de Bellavista, tenemos 18 en el estado Yaracuy, que en este momento estamos trabajando con ellos para optimizarlos, para ponerlos al nivel de Bellavista.
Bellavista est donc un des exemples de ces missions, et en ce moment, dans l'état de Yaracuy, où on se trouve, il y en a 18 qui suivent le même développement.
Tiene lineamientos productivos muy especiales, entre los cuales se plantea la producción sobre suelos organopónicos y se reduce en todo lo posible el uso de agroquímicos.
Alors, il y a des consignes très précises qui cadrent la production, en particulier la réduction des engrais chimiques et des pesticides.
Este es un modelo muy interesante que ya de inicio se comienza a trasladar la experiencia de Venezuela a otros países como Bolivia, como Argentina, que de hecho hay dos camaradas que van a Argentina, entre ellos el camarada Germán Oviedo, van a un curso por 5 meses a Argentina y a trasladar la experiencia nuestra a la Argentina, a Bolivia también, con la finalidad de fortalecer todo este esfuerzo a nivel de Latinoamérica, porque esto es la revolución que lleva nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en todo el mundo.
Et le processus qu'on observe ici au Venezuela est très intéressant. D'ailleurs, il va servir de modèle à d'autres pays comme la Bolivie, l'Argentine, où le camarade qui est juste à côté, Herman Oviedo, va se rendre pendant 5 mois pour un cours. Et au bout du compte, c'est le processus révolutionnaire vénézuélien qu'on va aussi exporter à travers ça, parce que c'est la révolution que mène notre commandant Hugo Chavez Frías.
Alors, il y a un dicton ici, hay un dicho aquí, ¿cuál es?
Bolívar vive. La lucha sigue, alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina.
Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina.
¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez! ¡Viva los campesinos! ¡Viva Zamora!
¡Viva!
¡Viva! Para todos ustedes, el cantor de Bellavista.
Amor ingrato, hoy vengo a decirte que ya me retiro muy lejos de ti. Con las esperanzas que ya no queremos, porque tú quisiste burlarte de mí. Ha pasado el tiempo y una vez me dijo que me pasaba al verme sufrir, con los sufrimientos que ya no queremos, porque tú quisiste burlarte de mí.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!
Voilà, donc on était à Bella Vista. On y reviendra tout à l'heure. On vous garde donc une petite surprise sous le coude. Guillaume, tu voulais poser une question.
Ouais, donc moi je connais pas bien la situation au Venezuela, mais je connais un petit peu les schémas traditionnels du marxisme européen et la vision qu'on a justement du processus révolutionnaire en Europe, c'est appropriation des moyens de production, lutte contre l'État bourgeois, quid des forces de répression. Comment ce schéma anticapitaliste que revendique Chavez s'inscrit-il dans ce problème des rapports de pouvoir, tout simplement? Est-ce que les rapports de pouvoir, la bourgeoisie, est atteinte dans ses intérêts par justement ce qui est en train de se passer au Venezuela?
Bah, c'est toute la question. Le Venezuela est pas exemple paradoxe, et c'est pas un, même si ça s'est appelé la révolution bolivarienne assez rapidement, c'est pas un projet de révolution marxiste au départ. C'est la révolution bolivarienne. Et Bolivar n'était pas marxiste. Et pour cause. La socialisation des moyens de production au Venezuela pose des problèmes qui sont très différents de ceux qu'on s'est posés en Europe. Pourquoi ? Aujourd'hui, encore une fois, de façon assez schématique, 50% des gens travaillent dans le secteur informel. 25% sont des employés de l'État, et une bonne partie des autres travaillent ou bien directement ou bien dans un secteur lié à l'industrie pétrolière, qui est une entreprise nationalisée, qu'il était avant l'arrivée de Chavez, mais qui l'empêchait pas d'être le moyen du détournement de sommes phénoménales d'argent. Donc finalement, du ménage a été fait. Le Venezuela est un peu un désert industriel. La création de coopératives, par exemple, qui cherchent à réirriguer le pays de façon endogène, on l'a évoqué dans les reportages. Endogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de remplacer les importations par des productions locales, mais à partir de pas grand-chose. L'irrigation à travers ces coopératives qui sont passées de, si ma mémoire est exacte, de 877 à l'arrivée de Chavez à plus de 120 000 aujourd'hui, représente effectivement la mise en place d'un système de détention, souvent d'autogestion, d'entreprises mixtes. Mais en tout cas, la question est posée, mais dans un processus dont on s'aperçoit qu'il se radicalise petit à petit et qu'il n'est pas arrivé avec un lourd bagage marxiste qu'il cherchait à imposer. Alors la question de la bourgeoisie est une excellente question aussi, mais elle est à replacer dans le contexte sociologique du Venezuela, qui est, encore une fois, de façon assez schématique, le suivant. 60% de gens dans l'extrême pauvreté, 80% de gens très pauvres, une classe moyenne d'environ 15%, et des gens d'une richesse telle qu'ils pouvaient propulser le Venezuela au second rang des consommateurs de caviar et de champagne. Donc évidemment, beaucoup de ces gens-là sont partis, ont déserté des usines qui aujourd'hui sont récupérées, qui sont le lieu d'expériences nouvelles dans l'autogestion, mais tout ça dépend de la réussite de ce processus à recréer un tissu industriel, en tout cas une industrie d'abord parallèle à celle du pétrole, et puis de développer.
Alors, autre question, c'est le rôle de l'armée. On n'a pas eu affaire à une puissance populaire armée qui a renversé l'armée bourgeoise. C'est la même structure. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a quelque chose d'étrange. Le rôle de l'armée, on l'a vu dans la tentative de renversement de Chavez.
Oui, on dit souvent Chavez est un militaire en France quand on veut faire peur aux Européens. Or, la tradition militaire latino-américaine montre qu'il y a des expériences de militaires progressistes qui œuvrent pour la transformation sociale. Le cas du Venezuela est encore plus particulier pour deux raisons. La première, c'est que contrairement à des modèles latino-américains habituels, il a été possible à des gens des classes les plus populaires d'accéder au rang de général. C'est-à-dire que la direction des armées n'était pas réservée à l'élite. Et l'autre phénomène intéressant, c'est qu'une partie de l'armée a été formée à l'université, où elle a rencontré des ex-guerrilleros qui s'étaient recyclés en profs d'université après les mouvements de guérilla. Et tous n'ont pas été vendus au capitalisme sauvage que dénonçait la révolution bolivarienne. Certains ont permis l'éducation de personnes comme Chavez, qui rentrait à l'armée pour jouer au baseball. Son rêve à Chavez était de devenir professionnel de baseball. Il ne pouvait pas se permettre une formation. L'armée était un lieu de promotion sociale. Il est rentré à l'armée et il s'est politisé. Il a d'ailleurs passé un doctorat quand il était dans l'académie militaire. il s'est formé, il y a toute une génération de militaires donc conscients politiquement, qui a aussi permis la cohésion entre le peuple et les militaires non putschistes au moment de 2002. Le dernier élément, c'est que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, l'appareil d'État était tellement sclérosé que la seule force sur laquelle il pouvait s'appuyer, c'était l'armée.
Alors, dernière question pour essayer de comprendre. Il parle de la révolution bolivarienne. C'est quoi le sens du bolivarisme? Il y a un concept, il y a une idée, il y a des lignes comme ça qui marquent le bolivarisme comme une idéologie?
Bolivar, avant tout, c'est une volonté d'intégration latino-américaine. Bolivar a libéré le Venezuela en 1811, la Colombie en 1819. Ensuite, il a libéré l'Équateur, le Pérou et puis la Bolivie, qui a pris son nom de Bolivar. Bolivar a aussi décrété une réforme agraire. Il était conscient du droit des indigènes. Donc c'était un progressiste avec ses ambiguïtés à lui aussi. Ça a surtout été l'effigie qui a permis à ce processus de se forger une identité à la fois national. Bolivar était vénézuélien. On a eu la même chose à Cuba avec Marti. On a eu Sandino au Nicaragua. Et donc l'identité nationale et aussi une volonté d'intégration latino-américaine. Et dans ce sens-là, le Venezuela est à la fois nationaliste dans un sens de souverainiste, la souveraineté du peuple vénézuélien, et internationaliste dans sa volonté de tisser des liens à tous les niveaux. Partenariat, le plus important étant évidemment la proposition d'un accord, non pas de libre-échange, mais de troc, de coopération, de solidarité à l'échelle latino-américaine, l'ALBA, qui veut dire aube en espagnol, contre-modèle à l'ALCA, traité de libre-échange américain proposé par Washington.
Et vraiment, le peuple s'est approprié ce concept de révolution bolivarienne. Et vraiment, l'épée de Bolivar, ou l'épée vraiment de la révolution, c'est la constitution qui a été donc signée en 2002, c'est ça ? Écrite en
99.
Et donc, que c'est vraiment approprié la population et qui est vraiment le fer de lance de cette révolution bolivarienne.
Mais justement, qu'est-ce qu'elle contient de spécifique, d'intéressant, cette constitution vénézuélienne ? Est-ce qu'elle remet en cause les schémas d'organisation de l'appareil d'État ?
Oui, c'est la constitution qui propulse la démocratie représentative vénézuélienne vers la démocratie participative. Elle en donne la possibilité, elle établit les droits qui permettent aux gens de réclamer l'exercice de ces droits contre des lois qui, elles, sont législativement inférieures, mais héritées d'un système, précédent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens souvent c'est pas rare de voir des gens qui se promènent avec leur constitution dans la poche et qui réclament le respect de la constitution contre des gens qui appliquent la loi. Donc oui, la constitution est reconnue comme une des plus avancées, notamment pour les droits des indigènes.
Bon, on arrive malheureusement au bout. Il y aurait 1000 questions encore à poser sur le Venezuela. Une, en tout cas, quelles sont les prochaines échéances pour le Venezuela ? Je crois qu'il y a des élections cette année.
Décembre 2006, oui. Élections présidentielles, oui, voilà, tout à fait. Donc là, la campagne a démarré. Donc Chavez était président et candidat. Et on a eu vent quand même de pas mal de candidatures qui essayeraient aussi de faire une opposition à gauche, hein, peut-être Petkov qui serait candidat.
Oui, mais c'est pas une opposition à gauche, hein, c'est un issu des mouvements.
Oui,
de gauche,
centre-gauche, oui, c'est ouais. Ça. Mais donc, ce serait pas frontal entre une oligarchie avec un représentant de l'oligarchie. Donc, il pourrait être Cisneros aussi, un des grands magnats de la presse, hein, qui est aussi, on a entendu donc sur les derniers jours là-bas une possibilité d'une candidature de ce magnat de la presse. Et bon, voilà, il y a Chavez en lice, quoi. Bon, mais c'est pas gagné, quoi.
La campagne est à ce point lancée que El País s'est fendu de deux articles absolument dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, sur Chavez, qui est le signe que, voilà, les hostilités sont lancées. On s'attend à ce que la presse française, notamment Libération, continue son bon travail sur le processus bolivarien.
Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. D'ailleurs, comme ils ne savent pas parler du reste de l'Amérique latine, on va s'en charger pour eux. L'Amérique latine aussi est en effervescence aujourd'hui. Il y a eu l'élection d'Evo Morales. Le Mexique, il y a des élections aussi bientôt. L'autre campagne des zapatistes. Quel écho il y a de tout ça au Venezuela aujourd'hui ? On en parle.
Écoute, ouais, tout ça est en marche, quoi. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est Cuba, quoi. Qu'est-ce qui va se passer à Cuba? Comment, justement, le fait que l'étau se desserre sur l'Amérique centrale, sur une issue possible en réaction à l'impérialisme, fait que Cuba va pouvoir avoir des associés et sortir de la nasse dans laquelle elle est depuis 40 ans, quoi. Et donc, effectivement, tous ces pays, maintenant, tout ce cambio, ce changement qui est en train de vivre toute l'Amérique latine, avec, je dirais, en patriarche Cuba et Fidel Castro un peu sclérosé sur son siège éjectable, parce que éjectable du fait vraiment de la guerre sale, hein, que lui mène l'Amérique du Nord depuis tant d'années. Bon, là il y a vraiment un espoir. Il y a un espoir aussi pour Cuba. Ça fera, je pense, plaisir à beaucoup de monde et à beaucoup de monde en Amérique latine de voir enfin Cuba pouvoir vivre dignement, quoi. Sa révolution.
Alors Antoine Renaud, on va terminer cette émission. On vous remercie d'être venu, mais on va pas abandonner nos auditeurs comme ça, puisque vous avez un cadeau à leur offrir. Oui,
parce que nous tenons nos promesses, et donc il y a le cadeau tant promis de la recette
des
qui va changer votre vie.
Voilà. Et Olivier Besancenot, qu'on a croisé là-bas aussi, était très friand de arepas.
Alors la recette des arepas.
Ainsi que, on arrive au fourneau là, parce qu'on va passer la nuit ici en fait, on va rester dormir là. On a été invité donc à passer la nuit ici, la cooperativa esta tan bella, de Bella Vista, ¿verdad? Uh-huh. Bella Vista. Uh-huh. Y aquí estamos cocinando las arepas, on est en train de cuisiner les arepas.
Le echan agua a la masa y la... le echan agua a la harina. Ah, echan la harina en un perol.
Dans la farine. Ajá. La farine dans sí.
Vacían la harina en un perol. Y de ahí le echan agua. Y le ponen un poquito de sal. La amasan bien amasada con las manos.
Voilà, bien pétrir la masse.
Ajá. Bien la amasada farine. Con las manos. Entonces ahí van. Cuando esté ya buena de tenderla, usted parte la pelotita.
De tenderla.
Sí.
Y hacerla, pues,
y amasarla.
Elle est bien, sí. Comme ça, sí. Elle a pris forme, elle a pris corps. Sí. Elle a bien pris corps.
Voilà. Entonces agarran la pelotita y la bolean así. La bolean así en la
mano. Y tú la tapas en la mano.
Y hacen así.
Tú la tapas en la mano.
Después la redondean así, bien ronda.
¿La rondí?
Ok.
Sí. Ok.
Mire, y si no la pueden hacer así con la mano, la ponen así, por... la extienden así,
bien la masa.
Si la metes un poco crème fraîche,
la hacen así.
Extienden bien la masa.
Hay un truco ahí.
Extienden bien la masa en una mesa, en una cosa. Y entonces la parten con la ruedita aquí.
Voilà. On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, comme le dit Fidel Castro, le génie est sorti de la bouteille. Et ce soir, pour faire sortir le génie de la table de mixage, on avait le doigt sur la gâchette, Juliette et Jérémy, dans le rôle des populistes messianiques et des autocrates militaires embusqués derrière leur micro. On avait les sous-commandants Cédric, Fred, Juliette et Alex. Et puis, El Salto Aldelante, le saut en avant dans le punk rock non marchand, était assuré par Guillaume Yom, qui ne désespère pas de voir émerger une scène punk hardcore au Venezuela. Si vous voulez réécouter cette émission, les précédentes et les chroniques, vous allez sur loldf.free.fr, loldf.free.fr. La semaine prochaine, on parlera du CESEDA, le projet de loi Sarkozy, et on se fera écho des mobilisations qu'il y a autour. Et dans 15 jours, on reviendra sur l'autre campagne au Chiapas. D'ici là, viva Zapata, on vous abandonne dans les bras des Échos du Capricorne. À la semaine prochaine, ciao.